François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po. François Hellebrun, comme chaque année, le 27 janvier, l'UNESCO a rendu hommage à la mémoire des victimes de l'Holocauste et a réaffirmé son engagement indéfectible à lutter contre l'antisémitisme, le racisme et les autres formes d'intolérance qui peuvent conduire à la violence ciblée sur un groupe. Cette journée du 27 janvier a été proclamée en novembre 2005, journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste par l'Assemblée générale des Nations Unies. Une façon, François Hellebrun, de rappeler la fameuse formule « plus jamais ça », mais voilà, il y a eu le 7 octobre dernier.
Tout à fait, Pierre. Vous avez tout à fait raison de replacer le cadre historique de cette commémoration annuelle où toutes les institutions internationales, à commencer par l'ONU à New York, mais aussi, comme vous l'avez indiqué, l'UNESCO à Paris, marquent ce jour avec un certain nombre de commémorations, de discours, de cérémonies. Et cette année, c'était le 25 janvier, parce que le 27 janvier tombait un Shabbat, donc ce n'était pas possible. Donc c'était le jeudi 25 janvier à l'UNESCO. Il y a eu une exposition, il y a eu aussi un superbe concert d'un Italien qui a travaillé sur les partitions, les textes et les chants qui ont été composés dans les camps de concentration et d'extermination. Et c'était absolument superbe et très, 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 très émouvant. Mais vous avez raison de rappeler aussi que toutes ces institutions internationales se sont construites sur le plus jamais ça. C'est effectivement après la découverte de l'ampleur de l'extermination des Juifs d'Europe en 1945, les pays qui ont recréé l'Organisation des Nations Unies a proclamé le plus jamais ça. Ces pays-là ont créé la Cour internationale de justice pour justement poursuivre les crimes contre l'humanité et de génocide. Ces pays ont créé l'UNESCO pour justement, par l'éducation, la science et la culture, lutter contre toutes les formes d'intolérance, de racisme et d'antisémitisme. Et aussi, ces pays ont, comme vous l'avez indiqué en 2005, créé cette journée internationale de commémoration de la mémoire des victimes de l'Holocauste. On préfère dire Shoah, plutôt que le terme américain holocauste, mais c'est celui qu'ils emploient. Et effectivement, le 7 octobre marque une rupture sur plein de choses. Mais évidemment, cette journée, ce Shabbat noir d'un massacre épouvantable, le plus grand massacre de juifs depuis la Shoah, et en plus sur la terre d'Israël, est un traumatisme énorme pour le peuple juif et pour tous les démocrates et tous les humanistes de par le monde. Mais le plus jamais ça a prouvé ses limites auprès de certains pays et auprès d'institutions internationales. La première limite, c'est qu'on aurait pu s'attendre à un mouvement de solidarité des nations au sein des institutions internationales pour condamner en masse les attaques criminelles du Hamas, les meurtres et massacres et prises d'otages. Ce n'a pas été le cas. Mais c'est vrai que De Gaulle disait à juste titre, quand on lui disait « mais l'ONU condamne la France sur l'Algérie », De Gaulle disait « mais... Ça me fait pas grand-chose, parce que qu'est-ce que j'ai à attendre d'une assemblée de dictateurs ?» Et c'est vrai que par le système de majorité simple, la majorité des pays étant encore des dictatures, et au sein de ces dictatures, beaucoup de dictatures islamistes fanatisées, le système de majorité fait que, quand les Juifs se font assassiner, on peut clamer par ailleurs plus jamais ça, mais ça ne fait pas appel à des condamnations. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qui nous a tous énormément choqués, c'est qu'un pays qui pourtant a subi le racisme, l'Afrique du Sud, un pays où les Juifs d'Afrique du Sud et où Israël s'est mobilisé pour la fin de l'apartheid, ce pays-là, l'Afrique du Sud, a osé porter plainte devant la Cour internationale de justice pour accuser Israël de génocide. Donc c'est le crime ultime, c'est le crime souverain. Il y a peu de pays qui ont commis des génocides. Il y a l'Allemagne en Namibie en 1905 contre les Herero et Nama. Il y a la Turquie contre les Arméniens en 1915. Il y a l'Allemagne nazie contre les Juifs et les Tziganes de 1940 à 1945. Et il y a le régime Hutu du Rwanda contre le génocide contre les Tutsis en 1994. Nous célébrons d'ailleurs les 30 ans de cet horrible génocide. Ça, c'est les grands génocides. Donc, accuser un État, une nation d'un génocide, c'est un crime ultime. Et c'est un dévoiement absolu. C'est-à-dire que la même semaine, ou quasiment le même jour, où Israël passait devant la Cour internationale de justice pour une accusation totalement fallacieuse, immorale sur le plan de la philosophie et juridiquement inepte, dans toutes les institutions internationales, que ce soit l'ONU, l'UNESCO ou d'autres, on commémorait la mémoire de la Shoah. Donc c'est une grande forme d'hypocrisie ou de grand écart entre différentes institutions.
Alors, puisqu'on parle d'institutions internationales, sous l'égide des Nations Unies, vous avez suivi, comme nous, ce qui se passe au sein de l'UNRWA. L'UNRWA qui est censée aider les Palestiniens, notamment au niveau de l'éducation. Et on a vu que cette organisation qui émane des Nations Unies recelait en son sein des membres faisant partie du Hamas et du djihad islamique. Et au-delà de ça, on peut aussi se poser la question sur les... je dirais ce silence incroyable de toutes les organisations internationales, mais aussi des ONG, sur ce qui s'est passé le 7 octobre.
Tout à fait. Donc l'UNRWA, comme vous l'avez rappelé, c'est l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Donc, alors, d'abord, c'est quelque chose un phénomène assez étrange, puisque le budget de l'UNRWA correspond à peu près au budget dépensé, 50% du budget dépensé dans le monde pour tous les réfugiés. Donc, les Palestiniens ne représentent qu'une infime minorité de cela, donc il y a une disproportion tout à fait disproportionnée. La deuxième chose qui est très étonnante, c'est la définition même de réfugié. C'est-à-dire que dans le cas des Palestiniens, on est réfugié de génération en génération. À la limite, les Palestiniens qui ont quitté la terre d'Israël et les frontières de l'État d'Israël actuel en 1948-49, ou qui ont été chassés pour certains, eux étaient des réfugiés, mais leurs enfants, leurs petits-enfants, et aujourd'hui on est à la quatrième génération, arrière-petits-enfants, on n'est pas réfugiés en droit international, de père en fils, ainsi. Par exemple, ma mère, comme toute ma famille maternelle, a été chassée d'Égypte, comme tous les juifs égyptiens, les 50 000 juifs égyptiens, en 56 par Nasser. On lui a retiré son passeport égyptien, comme on l'a retiré à toute la famille. Elle s'est retrouvée apatride, sans papier, elle a été chassée d'Égypte. Et moi, je pourrais considérer à ce moment-là, puisque je suis son fils, que je suis un réfugié égyptien. Mes enfants aussi sont des réfugiés égyptiens. Et j'ai même un petit-fils, il est aussi un réfugié égyptien. Donc, c'est construit sur une ineptie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les rapports qui sortent, notamment des Israéliens qui ont fait des dossiers très conséquents, qui ont été repris de manière très détaillée, très intéressante par le Wall Street Journal, mais assez peu repris par la presse française, c'est pas seulement le fait qu'il y ait 12 employés de l'UNRWA qui aient participé activement au massacre du 7 octobre, mais ce qui est montré par les rapports, en tous les cas publiés par le Wall Street Journal, c'est qu'au moins 1200 personnes de l'UNRWA, c'est-à-dire 10% des membres de l'UNRWA, sont des militants actifs du Hamas. Et même, ils considèrent dans certains rapports que ça peut monter à 23% si on considère que les hommes en âge d'être actifs. Ce qu'on savait déjà, c'est qu'au sein de l'UNRWA, les écoles étaient problématiques, puisque les manuels scolaires tournés vers la jeunesse palestinienne, et le Memri, qui travaille dessus depuis une vingtaine d'années, l'avait montré, sont des appels à la haine, à la destruction d'Israël et à l'extermination des Juifs. Donc c'était déjà absolument scandaleux que ces manuels scolaires soient financés par l'Union européenne et les nations internationales. D'ailleurs, François Zimmeray, qui est souvent à votre micro, quand il était député européen, avait mobilisé sans succès, hélas, l'Assemblée européenne pour arrêter ces financements. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est plus loin, c'est que l'UNRWA a participé activement à la construction des tunnels, que le financement de l'UNRWA est allé au armement du Hamas, et donc c'est contraire à toutes les décisions internationales. Mais j'ai entendu un de vos spécialistes hier sur Radio Shalom qui disait à très juste titre que l'UNRWA aussi, il fallait savoir que le seul non palestinien de l'UNRWA, c'était son directeur général, mais que 99% des employés de l'UNRWA étaient des Palestiniens, et donc les Palestiniens à Gaza, une très grande partie d'entre eux, travaillent directement pour le Hamas. Donc c'est un vrai problème qui explose enfin au grand jour. Il est bien que 10 grands pays, dont la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, aient marqué une pause dans le financement de cette organisation, parce qu'il faut pouvoir évidemment aider sur le plan humanitaire des populations qui, sans cette aide, seraient en difficulté. Mais cette aide ne doit plus évidemment passer par l'UNRWA, qui s'est déconsidérée totalement, je pense définitivement, je l'espère.
Alors, vous avez rappelé à juste titre l'action de l'Afrique du Sud qui voulait accuser Israël de génocide, mais de façon plus large, François Heilbronn, est-ce que on a failli dans l'éducation de la Shoah pour arriver 80 ans après la Shoah, à se dire que les Juifs qui étaient victimes sont aujourd'hui les nouveaux bourreaux, ce sont les nouveaux nazis, et les nouveaux Juifs, ce sont les Palestiniens. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la transmission de la Shoah et surtout dans le caractère unique de ce que peut être un génocide ?
Vous avez tout à fait raison. Ça pose des vrais problèmes d'éducation, mais ça pose aussi des vraies questions sur la propagande efficace de nos ennemis. Sur la question de l'éducation, il y a eu un sondage récent en France qui montrait que 82% des jeunes Français savaient ce que c'était que la Shoah. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ils le savent, ils connaissent, ils ont entendu parler, notamment en troisième, en première, et au mémorial de la Shoah, par exemple, on reçoit et on rencontre 100 000 scolaires par an, on forme 6 000 professeurs. Donc de ce côté-là, la connaissance est assez bonne. Mais ce qui est plus problématique, c'est qu'effectivement, entre la connaissance de la Shoah et l'extermination des Juifs il y a 80 ans en Europe, ils ne font pas forcément le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, et même, comme vous l'avez dit, on retourne l'accusation, la victime devient le bourreau, les Juifs qui ont été massacrés le 7 octobre deviennent les soi-disant génocidaires de la contre-offensive justifiée en légitime défense de l'État d'Israël à partir de la fin du mois d'octobre, et donc il y a une inversion de l'accusation. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que cette inversion de l'accusation, c'est quelque chose qui vient de très loin, c'est pas récent. En fait, c'est les soviétiques, le KGB, avec toutes ces cellules de désinformation, qui, dès les années 60, ont accusé Israël de racisme, de nazisme, de colonialisme. Et vous en rappelez, même l'Assemblée de l'ONU avait décidé qu'en 1975, un vote qui heureusement a été annulé un peu plus tard, quoi, une dizaine d'années après, que sionisme égale racisme. Et je me rappelle que pendant la première guerre du Liban, en 82, donc il y a 40 ans, à la télé française, on disait « les Israéliens sont des génocidaires ». Et donc cette accusation de sioniste égale nazi, de Israël égale génocidaire, est une accusation qui remonte très loin, qui était en fait assez marginale. La différence aujourd'hui, c'est que ça a envahi les réseaux sociaux. Ça envahit les réseaux sociaux, il y en a partout. C'est une accusation récurrente. Si vous regardez Al Jazeera, même en anglais, il y a un bandeau. C'est le bandeau qui ne défile pas, qui est statique au bas de la télé d'Al Jazeera, qui est quand même vue par des centaines de millions de personnes dans le monde. C'est « Israel genocide in Gaza », le génocide israélien à Gaza. Et donc, cette inversion est grave, parce que d'abord, c'est nazifier Israël, qui est une technique classique du KGB et des Russes. On le voit bien d'ailleurs avec les Russes aujourd'hui en Ukraine. Ils veulent la propagande de Poutine, c'est « les Ukrainiens sont des nazis », c'est pour ça qu'il faut les combattre. Bon, c'est le même terme. C'est en nazifiant l'adversaire, c'est pour le délégitimer tous ses combats. Et c'est une rhétorique et un système de propagande très grave. Et donc, vous avez tout à fait raison. Il faut, dans les salles de classe, c'est important que les professeurs le fassent, donner les définitions. C'est quoi un crime de guerre ? C'est quoi un crime contre l'humanité ? C'est quoi un massacre de masse ? C'est quoi un génocide ? Il faut donner les définitions. Et en tous les cas, c'est évident, Israël ne pratique en aucun cas et n'a jamais pratiqué en aucun cas des génocides d'autres populations.
François Helbron, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.